Le hayai, ou Dobyntonia madagascariensis, qui appartient au groupe des lémuriens et vit à Madagascar, est un des plus curieux primates encore existants. Depuis sa découverte en 1788 par Sonra, qui croyait qu'il vivait sous terre, son existence n'a cessé de poser des problèmes. Et pendant de nombreuses années, les naturalistes furent très embarrassés pour le situer dans la classification des mammifères. Appelé rat, puis écureuil par les premiers auteurs, il devint enfin primate quand on put étudier l'ensemble de ses caractères anatomiques. Le hayai mesure environ un mètre de long, et son corps est couvert de longs poils noirs à extrémités blanches. Sa tête est grosse, sphérique, son museau est court. Ses yeux sont grands et ronds, munis comme ceux du chat d'une troisième paupière. Ses oreilles présentent un pavillon très développé. C'est un animal essentiellement nocturne qui reste endormi dans un nid pendant la journée et ne se réveille que la nuit tombée. Lorsqu'on le dérange pendant le jour, il a toujours beaucoup de mal à se mettre en mouvement et se gratte longuement avant de fuir. C'est un animal très discret et généralement silencieux qui chemine sur les branches à la recherche de sa nourriture. On le rencontre quelquefois sur le sol où il n'hésite pas à descendre pour se rendre à un arbre isolé. Il marche assez facilement sur la terre nue, mais semble par contre beaucoup moins adroit, probablement à cause de la conformation de sa main, pour cheminer comme ici dans les hautes herbes. C'est un habile grimpeur qui, contrairement aux autres lémuriens malgaches, est muni de griffes à tous les doigts, sauf aux gros orteils. Ceci lui permet de grimper dans toutes les positions et sur tous les supports. Il n'est cependant pas aussi agile que les autres lémuriens. Sa démarche est en général calme et lente, et il se résigne rarement à courir. Comme on le voit ici, pour passer de l'extrémité d'une branche à une autre, il prend grand soin de saisir une prise solide avant de lâcher la branche qu'il tenait. Il est capable de cheminer toute la nuit en explorant les arbres, s'arrêtant de ci, de là pour flairer les écorces, changeant de niveau en utilisant les troncs et les lianes dans l'enchevêtrement de verdure. C'est alors que l'on peut entendre le cri sonore qu'il émet quelquefois dans la nuit et qui signale sa présence. Bien que moins adroit que les autres lémuriens, il peut sauter sans bruit d'une branche à l'autre. Les gros troncs lui servent de route, mais pour atteindre des fruits éloignés, il sait se pendre par les pattes postérieures ou marcher en s'agrippant sous les branches. Un hayai est ici en train de couper des rameaux pour édifier son nid. Le bois, sectionné par quelques rapides coups de dents, la branche est ensuite transportée, dans le cas présent, jusqu'à une touffe d'épiphytes formant une large coupe fixé à un tronc d'arbre. De très nombreux voyages, ne dépassant généralement pas quelques mètres, lui permettent d'apporter une masse de rameaux feuillus qu'il entrelace en une construction plus ou moins sphérique. Dans le nid, le aïaï aura juste la place de s'installer, roulé en boule, et c'est là qu'il passera la journée, à l'abri de la lumière que ses yeux trop sensibles supportent avec peine. Le aïaï, que nous observons au travail, est une femelle. Son jeune, âgé d'environ 6 mois, reste près d'elle et habitera le nid avec elle. Pendant la construction, à plusieurs reprises, il tentera d'aider sa mère, la suivant, l'embarrassant un peu, apportant quelques rameaux au nid, mais qu'il déposera seulement sur le nid au lieu de les intriquer avec les autres, comme le fait la mère. Sur plusieurs de ces images, on voit bien la rapidité avec laquelle ces puissantes incisives de rongeurs lui permettent de sectionner les branches. C'est aussi entre ses dents qu'il les transporte jusqu'au nid, ses mains trop spécialisées ne lui permettant pas une prise très précise. Assez maladroit, il laisse souvent tomber le rameau qu'il coupe ou qu'il apporte. Le nid du aïaï peut être construit sur des arbres d'espèces variées. Pour sa construction, l'animal utilise en général les matériaux les plus proches. Et le plus souvent, les rameaux sont coupés sur l'arbre qui sert de support. Parfois cependant, l'intrication de la végétation favorise l'utilisation de matériaux provenant d'autres arbres. Suivant le type de forêt, le nid peut se trouver à une hauteur variable. Les plus bas ont été observés à une hauteur de 4 ou 5 mètres, mais le plus souvent, le nid est construit sur une fourche d'arbres à 10 ou 15 mètres. Un aïaï est ici en train de réaliser son nid dans ces conditions. Il entre toujours par le même côté de la boule de rameaux pour y insérer les nouveaux matériaux sur les parois et il ne s'arrêtera de construire que lorsque les murs de feuillage seront suffisamment opaques. Les branches qu'il transporte peuvent avoir 40 à 60 cm de long, rarement plus. Lorsqu'il se trompe, comme ici, et cherche à tirer sans succès une branche trop importante, il doit reprendre son travail pour en diminuer la longueur avant de pouvoir la porter au nid. Un aïaï fréquente un jour, parfois une semaine ou plus, le même nid, puis il en construit un autre. Il peut à l'occasion revenir habiter un ancien nid qu'il consolide par l'apport de nouveaux matériaux frais. Les nids abandonnés sont quelquefois occupés par une famille de rats ou le plus souvent envahis par des fourmis. Ces puissantes incisives lui permettent de ronger les écorces ou les noyaux à la recherche des larves. Il soulève les écorces des hints, arbre très commun dans la région où il vit, pour manger certaines excroissances juteuses qui poussent sur le tronc et dont il semble se régaler. Quand il repère une larve dans une branche, il dégage un orifice avec ses dents, puis c'est à l'aide de son troisième doigt spécialisé qu'il l'écrasera dans son trou et en ramènera les débris succulents. Devant la menace de disparition de cette espèce devenue très rare, on a cherché à capturer quelques-uns des derniers spécimens pour les introduire dans une réserve gardée à l'abri de l'influence humaine. Voici un jeune qui, en attendant d'être relâché, se protège de la lumière dans une caisse. Un autre jeune, capturé avec sa mère, peut ici être observé en train de téter. Fait exceptionnel chez les primates, les mamelles du haï-haï sont en position inguinale. Un très jeune animal a pu être trouvé dans un nid, sa mère venant d'être tuée 2 jours avant par les habitants d'un village isolé. Nourri avec du lait, il a rapidement repris des forces et accourt quand on lui présente le biberon. Au début, il fallait le lui tenir. Puis il s'est peu à peu habitué à le faire tout seul, tranquillement couché sur le dos. Quand il tète, sa langue, légèrement tirée, repose sur les dents inférieures. Et c'est ainsi qu'il peut prendre les mamelles de sa mère sans la blesser. Le haï-haï a des dents si puissantes qu'elles lui permettent même de ronger le grillage des cages. Son troisième doigt, long et fin, lui sert à fouiller dans les trous d'arbres. Mais il a aussi d'autres usages. C'est avec lui qu'il boit les liquides de cette curieuse façon. Son doigt, trempé dans le lait de la noix de coco, est ensuite essuyé rapidement sur sa langue. Cette technique lui permet d'atteindre n'importe quel liquide, et c'est ainsi, par exemple, qu'il peut vider les œufs sans les écraser. Pour boire avec son doigt, il utilise tantôt la main gauche, tantôt la main droite, répétant parfois plus de 20 fois le même mouvement avec une main avant d'en changer. Son troisième doigt lui sert aussi en partie de palpe. C'est avec son extrémité qu'il tâte, par des petits mouvements délicats, les bords d'un orifice avant de l'attaquer avec ses dents. Bien que la plupart du temps, le troisième doigt soit seul utilisé pour boire, il peut dans certains cas utiliser aussi le quatrième, qui, plus gros, doit entraîner plus de liquide et paraît plus propice à cet usage, au moins pour consommer les noix de coco. Après avoir bu le lait d'une noix, il racle depuis l'orifice la pulpe qu'il peut atteindre. Il en est très friand et en captivité en fait une grande consommation. Dans la nature, les haï-haï qui vivent encore à proximité des villages font à certaines périodes des dégâts importants dans les cocotiers. Ils attaquent les noix sur l'arbre et après avoir déchiqueté la fibre sur une face, ils rongent activement la coque et y font un trou rond d'environ 3 cm de diamètre, par où ils consommeront le liquide et la pulpe. La noix, ainsi exploitée, tombe sur le sol après 1 ou 2 jours, et l'étalage des noix rongées signe leur passage. Les superstitions au sujet du haïaï sont telles que son apparition dans un village est considérée comme une malédiction. Il faut le tuer et même abandonner le village pour que la mort et les maladies ne s'abattent pas sur les familles. C'est généralement par la mort de l'animal que l'histoire se termine. Et les derniers haïaï, chassés de la forêt côtière primitive par sa destruction et réfugiés dans les grands arbres qui entourent encore quelques villages, finissent le plus souvent ainsi. Sur cet individu mort depuis peu, malheureusement avant que l'on ait pu intervenir, on voit encore intacte son anatomie externe. Ses mains très spécialisées, dont les longs doigts, sont terminés par des griffes et son troisième doigt, plus fin que les autres, sont ici très faciles à remarquer. Ses pieds, très semblables à ceux des autres lémuriens, sont adaptés à la course sur les branches, avec le pouce opposable aux autres doigts et les plottes digitales bien développées. Ces incisives énormes paraissent extraordinaires chez un primate, et l'on comprend facilement que les premiers systématiciens aient été quelque peu décontenancés et aient hésité pour les classer. Partout à Madagascar, la forêt brûle. Et si les derniers représentants de ce groupe si curieux sont en train de disparaître, c'est avant tout par la destruction de leur biotope naturel. Par la faute humaine, une végétation luxuriante disparaît en peu de temps avec tout ce qu'elle abrite. Et dans l'avenir, il ne restera plus qu'une terre nue et triste. Voici Nossi Mangabe. Cette île réserve représente le seul espoir de préserver cette espèce d'une extinction certaine en sauvegardant de l'action humaine ses derniers descendants. Un certain nombre de haïaï y ont déjà été introduits. En voici un que l'on vient de lâcher. C'est grâce à la compréhension du gouvernement malgache que cette réserve a pu être créée et nous espérons qu'elle permettra aux haïaï de survivre encore longtemps.